Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous êtes désormais soit au volant de votre voiture en train de regagner votre destination. Soyez concentrés, restez concentrés, chers amis. Et puis pour les autres, que vous avez rejoint vos pénates et que vous êtes agréablement installés, prêts à écouter votre libre antenne. Ce soir, eh bien, toute la libre antenne est au grand complet avec Florian et Julia qui sont là et qui attendent vos appels. Et puis notre réalisatrice Ilkay Sakai qui nous accompagne ce soir. Vous voyez, vous avez une très belle équipe, donc tout pour passer une bonne soirée. Donc nous vous attendons au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Vous nous écrivez vos SMS comme vous avez été aussi nombreux hier soir à nous écrire au 739-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Notre adresse mail toujours libreantenne@europe1.fr et puis notre groupe Facebook, notre groupe de parole où vous pouvez lier des amitiés, chers amis, et converser, échanger, débattre sur Facebook, la libre antenne, Yann Moix, Olivier Delacroix, où vous pouvez donc même écrire vos messages en privé à Julia et à Florent. Yann Moix, que vous retrouverez d'ailleurs demain soir, puisque c'est le week-end déjà, et que à partir de 23h demain, vous serez avec Yann Moix. Pour le moment, eh bien, nous allons passer 2 heures ensemble. Votre libre antenne du jeudi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Pauline au 39-21. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Pauline, nous vous avions eu au téléphone avant l'été. Nous étions restés d'ailleurs un long moment. Nous allons d'ailleurs avoir l'occasion aussi de parler à votre avocate, Maître Rongier, qui est aussi en ligne avec nous. Bonsoir Maître.
Bonsoir Monsieur Delacroix.
Parce que vous nous aviez expliqué, Pauline, que... Réexpliquez-moi en fait le résumé parce que j'ai peur d'oublier des choses, des détails importants. Mais il s'agissait d'un placement abusif de votre fille, placement abusif opéré par l'ASE après des révélations de violences sexuelles causées potentiellement et probablement par le père de cet enfant dont vous êtes séparés maintenant. Mais donnez-moi la suite un petit peu pour que celles et ceux qui ne vous ont pas entendu avant l'été comprennent bien.
Bah, vous avez très bien résumé. C'est un placement abusif. Enfin, quand je vous en avais parlé, je ne sais même pas si je réalisais à quel point il était abusif parce que je venais de vivre tout ça et j'étais encore en état de choc. Donc maintenant, j'ai réussi à sortir un petit peu la tête de l'eau et à y voir plus clair et me rendre compte à quel point il est réellement abusif. Donc elle est placée depuis le 24 mai. Le motif de placement, ça a été le conflit parental. Mais je l'ai appris au moment du placement.
Le motif, donc,
officiel.
Oui, avec le père de cet enfant qui, je le rappelle, a un gros passé judiciaire, un passé assez lourd de judiciaire dans la violence dont vous avez été victime, puisque vous avez été menacé par cet homme à plusieurs reprises, menacé de mort. Hein, oui. et vous avez, je ne me souviens plus, pardonnez-moi, mais si il vous avait touché, frappé ou impressionné physiquement.
Il y a eu des violences physiques aussi.
D'accord, ok.
Donc
vous étiez motivé à quitter cet homme, mais c'était donc un conflit entre lui et vous, ce dont s'est servi la justice, visiblement.
Bah, on était séparés depuis la naissance de ma fille, donc il n'y avait pas, de conflit en soi. Le conflit, il est réellement né à partir du moment où il y a eu la plainte. Avant la plainte, il remettait la faute des révélations de violences sexuelles sur ma fille sur mon ancien compagnon, puisque j'avais refait ma vie avec quelqu'un d'autre. Donc ma fille avait un beau-père, et il disait bah, c'est l'autre. Et ensuite, moi j'ai fait appel aux services sociaux qui m'ont demandé de porter plainte, et pas contre X comme j'entendais le faire, mais de désigner les deux suspects, donc le père et le beau-père. Et une fois qu'il y a eu cette plainte, il a complètement changé de comportement. Donc là, c'est devenu un énorme conflit. Il s'est mis à porter plainte contre moi en faisant des fausses déclarations à la police. Donc il a porté plainte pour disparition inquiétante de mineurs avec pour mobile démence, sachant que je n'avais pas bougé de chez moi, que je lui répondais à ses sollicitations. Moi, j'étais recherchée par la police quand je suis arrivée au commissariat et qu'il me dit « vous recherchez en fait », il pensait peut-être même à l'étranger, et qu'ils sont surpris qu'en fait je n'ai pas bougé de chez moi. Ils me disent « mais dans ce cas-là, pourquoi vous ne donnez pas de signe de vie à monsieur ? Il était mort d'inquiétude ». Du coup, je leur montre mes échanges avec monsieur. Ah oui, donc en fait, il vous parlait pendant qu'il déposait sa plainte. Donc ça a été classé sans suite, mais ça, le PV de déposition a servi à me faire passer pour,
une mère
pour quelqu'un de dangereux.
Oui,
dangereux. Il y avait écrit démence. Donc
démence.
La personne à l'accueil n'aurait jamais dû prendre ça. Il y a eu une erreur de fait, mais ça a servi derrière. Puis derrière, les services sociaux se sont dit inquiets sur mon état de santé psychique. Donc tout le monde s'est inquiété, enfin tout le monde. Lui et les services sociaux, il y a eu énormément d'accusations de potentiels troubles chez moi.
Oui, je crois,
j'ai dû me défendre. Enfin.
Je crois me souvenir que vous avez fait l'objet en plus de plusieurs accusations par le biais de déposition de la part de membres de sa famille, d'amis, qui ont écrit un tissu de mensonges sur vous. C'est bien ça ?
Oui, bon, mais à ce moment-là, je disais seulement, j'ai eu plein de faux témoignages contre moi, mais j'étais tellement affaiblie par tout ce qui se passait que je n'avais pas encore réagi. Mais là, maintenant, je suis très bien accompagnée par Maître Rongier, que j'ai sollicité après le placement en urgence.
Oui.
Et là, elle est un soutien et elle réagit procéduralement pour arrêter que j'arrête de me faire broyer par une machine. Donc là, il y a eu une plainte pour 9 défauts témoignages, les 9 sur lesquels j'ai réussi à récolter des éléments de preuve. Et du coup, une plainte pour escroquerie au jugement, puisque les jugements se basent sur tous ces éléments-là.
D'accord. Alors, on va marquer une petite pause, si vous le voulez bien. Et puis, on va se retrouver juste après pour évoquer votre attitude ensuite, c'est-à-dire le combat que vous avez décidé de mener, parler de cette injustice, notamment dans les médias. Et on va voir que vous avez été suivi parce que ce combat est plus que légitime. Et c'est ce pourquoi vous êtes là ce soir avec Maître Rongier. Vous ne quittez pas, vous restez avec moi et on se retrouve dans quelques instants.
La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot « nuit », suivi de votre message au 7 39 21.
75 centimes plus coût du SMS.
Il est 23h20, vous êtes sur la libre antenne et nous sommes avec Pauline qui mène un combat pour parler de l'injustice dont elle est victime, combat qu'elle mène aussi dans les médias. Vous m'avez écrit que tous les professionnels sont unanimes. Pauline, c'est le placement le plus hautement abusif dont ils ont entendu parler. Alors, pourquoi cette réaction unanime et ce combat, vous avez commencé à le mener à peu près depuis combien de temps ?
Depuis le jour du placement, j'ai sollicité des associations et j'ai fourni mon dossier et systématiquement, les personnes étaient assez scandalisées par mon dossier. C'est leur réaction. Après, moi, je ne baigne pas assez dedans pour avoir leur recul.
Oui.
Ça sera peut-être plutôt aux professionnels eux-mêmes de donner le détail sur en quoi ils trouvent ça particulièrement abusif. Enfin, si, ceci dit, je peux y répondre. Hein, parce que moi, quand on m'a annoncé le placement, déjà, on l'a fait par téléphone, un bref appel. Au travers duquel ils considèrent m'avoir informé du contenu du rapport, alors que c'était très insuffisant parce que au moment du jugement, j'ai découvert un long rapport qui ne m'a pas été correctement communiqué.
Et qui racontait quoi, ce rapport ?
Le rapport déforme complètement mes propos. tout est transformé à charge contre moi. Donc on parle de conflit parental, on me reproche d'avoir déposé plainte, quand bien même c'était eux qui me disaient de déposer plainte, mais comme après la plainte pour les violences sexuelles sur ma fille, le père de ma fille s'est mis à me harceler et à me traquer, à vouloir savoir où je vivais, à se rendre à la crèche pour exiger à avoir mon adresse, et à expliquer qu'ils faisaient des rondes pour me trouver. Enfin bon, là, il y avait un climat assez inquiétant. Donc j'ai déposé plainte pour les violences conjugales à ce moment-là et pour le harcèlement. Et du coup, bah, dans le rapport, il y a écrit que je suis dans le conflit parce que je dépose plainte.
D'accord.
Par exemple. Alors,
aujourd'hui, vous en êtes où, Pauline ?
Aujourd'hui, j'ai une audience dans une semaine, le 23 septembre,
oui,
pour l'appel du placement. J'ai déjà eu une audience au mois de juillet pour lever le placement en attente de l'appel.
Lever le placement, donc ça se traduit comment ça dans les faits ?
On demandait à ce que ma fille puisse retourner auprès de sa famille en attente de l'audience d'appel. Mais ils ont considéré qu'il n'avait pas été démontré que le placement compromettait le développement psychoaffectif de l'enfant. Donc, c'est ce qui a été retenu pour maintenir le placement.
D'accord.
Et les services sociaux disent qu'elle va très, très bien, que tout va bien.
Oui. Et vous l'avez vue dernièrement, votre fille ?
Alors, à la base, je la voyais une heure toutes les deux semaines. Maintenant, ça a évolué. La juge a accordé que je puisse la voir 2 heures par semaine. Donc, ça va mieux depuis que je la vois plus. Mais je vois que son état se dégradait vraiment à vitesse grand V. Hein. Elle en avait même de l'herpès sur la bouche. Qui se propageait même à l'intérieur de la bouche, sans suivi médical, sans suivi psychologique.
Elle est toute petite en plus, hein, elle a 2 ans et
demi. Oui. Elle vient d'avoir 3 ans, elle vient de faire sa toute première rentrée scolaire sans sa maman. Donc ce sont des traumatismes qui lui resteront. Enfin,
qui lui resteront et qui vous resteront aussi.
Oui.
Où on est pour le père, en fait, qui, à un moment, avait le droit de l'avoir avec cette plainte pour attouchement sexuel ou agression sexuelle. Lui, il a le droit de l'avoir aujourd'hui ?
Ah, il a les mêmes droits que moi. Et je suis allée consulter le rapport social, les rapports qui ont été faits durant cet été auprès du juge des enfants la semaine dernière. Et j'ai découvert dans leur rapport que monsieur était absous de tout et qu'il demandait même un élargissement de droits.
Maître Rongier, lorsqu'on écoute Pauline, on a longuement échangé avant l'été, on a le sentiment ici à la Libre Antenne que lorsqu'on est une femme seule et que finalement on n'est pas dans la ville, dans sa ville d'origine, hein, qu'un père, le père de la petite, lui est chez lui là-bas, a des connaissances, malgré son casier judiciaire long comme le bras, visiblement a pas mal d'acquaintances avec des politiques, avec des policiers, puisque visiblement il connaît tout ce petit monde-là, puisque c'est une ville de province, soit elle est grande, cette ville de province, mais on sait que finalement, c'est tout petit. Hein. Les villes comme Lyon, comme Orléans, comme Rouen, on sait que finalement, tout le monde se connaît. Quel regard vous portez sur cette affaire, vous, Maître Rongier ?
Alors, je crois qu'effectivement, on est face en fait, à un violent conjugal qui, par définition, hein, comme c'est souvent une caractéristique qui revient, est assez fort en manipulation, et qui finalement arrive à manipuler autour de lui, hein, comme vous l'expliquez, dans cette petite ville d'Orléans, qui arrive à manipuler alors son entourage, et puis des intervenants sociaux, et puis voilà, de fil en aiguille, en fait, qu'il réussit à détourner des institutions, des procédures qui sont censées protéger les victimes de violences conjugales, qui sont censées protéger les enfants victimes de ces violences, et qui finalement se retrouvent détournés de cet objectif et puis viennent entériner des situations de violence de manière extrêmement grave, puisque là, c'est une décision de placement qui est horrifiante. On est face à quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est une petite fille qui a dénoncé des faits d'inceste, qui se retrouve coupée de sa maman du jour au lendemain. Alors, ce qu'il fallait, ce qu'on attendait à ce moment-là des institutions, c'était qu'on entende sa parole, en fait, qu'on l'écoute, qu'on la place pas et en l'obligeant à avoir des visites avec son papa qu'elle a dénoncé. Enfin, ça paraît complètement aberrant.
Mais est-ce que la parole, d'une petite de 2 ans et demi, en fait, a du poids, en fait, légalement?
Alors, bien sûr. Oui. Qu'elle a du poids. Après, c'est vrai que Outreau est passé par là, a fait beaucoup de mal. Mais oui. Là, on sait aujourd'hui que non, la parole d'un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, a du poids.
Visiblement, elle n'a pas pesé. Ça n'a pas pesé grand. Bah,
Pourtant, ce qui est important, c'est que la parole de Louise, en fait, elle s'est déployée dans un cadre qui n'a rien à voir avec le domicile maternel. C'est à la crèche, là où elle est en confiance avec des assistantes maternelles qui s'occupent d'elle depuis plus d'un an. C'est à ce moment-là, en fait, qu'elle commence à manifester ses angoisses. Et c'est les assistantes maternelles qui se saisissent du problème, qui contactent la maman et qui lui disent « Là, on a un problème avec Louise. Elle ne veut plus être changée. Elle tremble, elle crie. Elle dit que quelqu'un lui a fait mal. C'est pas quelqu'un de la crèche. C'est pas vous. Faut lui parler. »
Oui, c'est ce qui est fou dans cette histoire. Parce que ça part de là. Finalement, ce qui est fou, encore plus fou, je dirais, c'est que la maman a une attitude, Pauline a une attitude hyper responsable à ce moment-là. Elle va chercher et elle va porter plainte pour au moins connaître la vérité. Et finalement, on s'aperçoit que tout lui est retombé pratiquement dessus, parce qu'elle a été, traitée comme une moins que rien. Dans une semaine, il va y avoir une audience. Qu'est-ce que vous allez chercher dans cette audience? Qu'est-ce que vous allez revendiquer, mettre au nom de votre cliente?
Oui, alors ce qu'on cherche, évidemment, c'est de récupérer Louise, et surtout à essayer de faire en sorte que les magistrats se penchent là sur ce dossier, sur cette affaire, avec de la hauteur, qui prennent un petit peu de distance, en fait, avec tous les témoignages qui sont fournis par le violent conjugal. Donc c'est vrai que donc Pauline expliquait qu'on a fait des plaintes pour faux témoignages, des plaintes pour escroquerie au jugement, parce que monsieur, il arrive avec des éléments en pagaille, et puis les juges, les pauvres aussi, c'est les moyens de la justice qui font défaut, ils n'ont pas forcément le temps, en fait, de se plonger avec l'énergie qu'ils souhaiteraient dans des dossiers comme celui-là.
Ce à quoi vous faites allusion, ce sont ces fameuses attestations sur l'honneur produites par les amis, voilà, la famille, en tout cas les proches.
Des attestations sur lesquelles, oui, le juge se repose, les intervenants sociaux se reposent, puis on sait qu'après, les juges se reposent beaucoup sur les rapports des intervenants sociaux. Donc, finalement, en fait, là, on voudrait que la juridiction, que la cour comprenne que la situation est tellement grave, là, qu'il faut un petit peu prendre de la distance par rapport à ce que disent les intervenants sociaux, l'ASE, sachant que eux, leur préconisation, en fait, part de rapports qui sont effectués par des gens pas particulièrement formés à toute cette problématique, surtout celle des violents conjugaux, et puis qu'on puisse être manipulé par ce profil d'auteur.
Moi, j'ai le sentiment, maître, que dans cette histoire, et Pauline, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que Pauline a été un peu prise en grippe du fait que c'était une jeune femme qui se défendait et qui s'exprimait extrêmement bien, qui avait l'intelligence pour, l'éducation pour, et on a l'impression qu'on lui a mis un gros coup sur la tête le jour où finalement elle s'est retrouvée toute seule dans ce tribunal et qu'elle a compris qu'elle ne reverrait pas sa fille. C'est possible, ça? Vous avez été témoin de ça, souvent? Est-ce que les services sociaux, parfois, comme dans la vie, finalement, vont sympathiser ou vont avoir un petit coup de cœur pour l'un ou l'autre des parents et finalement allumer celui qu'ils aiment moins?
Oui, alors c'est vrai que c'est toujours la coupable, entre guillemets, idéale, la maman seule. On se rend compte de ça aujourd'hui dans plein de situations et dans le cas de Pauline, en fait, c'est vrai qu'on se demande, en fait, qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse pour être une bonne mère. Alors, si elle porte plainte, on lui reproche. Si elle porte pas plainte, on lui reproche. Si elle porte plainte en dénonçant le papa dénoncé par sa fille, on lui dit que c'est elle qui lui aurait mis ça dans la tête. Si jamais elle dénonce quelqu'un d'autre, on dit que, enfin, en fait, elle ne C'est comme si elle ne pouvait rien faire. Voilà, cette maman, effectivement, célibataire dans une ville qui n'est pas la sienne et où son conjoint, lui, est parfaitement intégré et puis connaît tout le monde. Mais en fait, c'est vrai, elle se retrouve, vous avez raison, un peu prise en grippe. Et je pense aussi, effectivement, qu'elle n'a pas le profil de la victime traditionnelle qu'on attend. C'est vrai qu'elle est, elle est parfaitement stable. Elle a beau avoir vécu des choses terribles, avoir sa fille aujourd'hui qui est placée. Alors, elle est dans la souffrance, évidemment, mais elle tient le coup, elle tient le coup, mais elle s'exprime bien, elle ne se laisse pas faire, elle ne les laisse pas martyriser son enfant, parce que parfois, c'est vrai qu'il y a quand même un certain retard dans les pratiques éducatives, et elle intervient, et voilà, elle ne se laisse pas mettre en situation de faiblesse, la situation dans laquelle on aimerait la mettre, et puis je constate aussi, effectivement, que depuis que les médias s'intéressent à cette affaire, elle subit des brimades.
Quel type de brimade ?
Alors on lui dit, ah bah non, maintenant vous n'aurez plus droit d'avoir des appels avec votre fille. On ne lui dit pas clairement que c'est lié au fait que ça sorte dans la presse, mais ça coïncide. Voilà, donc c'est un petit peu des petites sanctions comme ça qui viennent, et on a l'impression que c'est des petits abus de pouvoir.
C'est une tendance générale. Je peux vous dire que tous les parents que j'ai dans ces affaires de placement se font taper sur la tête dès qu'ils revendiquent leurs droits, dès qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a une sorte de toute puissance que l'on évoque souvent ici sur cette antenne, des services sociaux qui ne permettent pas le dialogue, ne permettent pas l'échange. En fait, c'est leur décision est reine et on a à s'y plier, point barre. La semaine prochaine, donc, il va y avoir cette audience. Je crois, Pauline, que vous êtes très suivie pour cette audience. Qu'est-ce qui va se passer avant cette audience ?
Vous voulez dire juste avant l'audience ?
Oui, vous m'avez parlé hors antenne de gens qui vous appuyaient aujourd'hui. Vous êtes très suivie.
Oui, les associations qui suivent mon dossier depuis le début du placement vont se réunir pour m'apporter leur soutien.
Ben oui, parce que c'est bien que celles et ceux qui écoutent Europe 1 ce soir sachent quelles sont ces associations, parce que ça crédibilise beaucoup votre légitimité, si vous voulez.
Il y a Innocence en danger, il y a le Comité international pour la dignité de l'enfant, il y a Protéger l'enfant et l'Association des familles victimes de féminicide. Ça, ce sont les quatre associations qui ont vraiment planché sur mon dossier, qui m'ont accompagnée dans toutes mes démarches depuis le placement.
D'accord. Vous êtes confiante ?
Alors, je l'étais avant le juge des enfants. Je me disais qu'on allait enfin être protégée et j'étais sereine. J'allais à l'audience sereine et je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, je ne peux plus être sereine. Puisque je peux me retrouver dans une situation complètement ubuesque. Donc,
qui pourrait se traduire par quoi, par exemple ? Ça veut dire que ce placement pourrait rester tel qu'il est là ?
Oui, ça pourrait rester, ça pourrait même être pire. Hein, elle pourrait être placée chez son père et que moi, je perde tout droit sur elle. Il peut y avoir même d'autres situations.
Votre avocate, Maître Rongier, vous allez pouvoir parler de ces fausses dépositions parce qu'elles ont pesé quand même lourd dans tout ça. On sait que les juges aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas le temps de vérifier la véracité de ces témoignages, ces fameuses attestations sur l'honneur, où pourtant il est écrit que si on ment, on est passible de plus d'un an de prison. Mais visiblement, ça ne fait peur à personne, puisque dans chaque divorce, pratiquement, on a moult attestations qui racontent tout et n'importe quoi. Dans cette histoire, elles ont pesé lourd, ces attestations.
Alors, oui, elles ont dû peser lourd. Mais de manière pas si visible. Donc, on va en parler parce que c'est forcément, ça a donné une coloration. Et puis, même si ça vient de quelqu'un qui a un lourd passé carcéral, ça a eu l'air d'avoir un peu de poids. Mais je vais surtout aussi me centrer sur le fait que, en fait, les deux critères, normalement, pour placer un enfant, pour qu'il y ait soit un danger, soit des conditions de développement compromises. Et les rapports, en fait, ne démontrent aucun de ces deux critères. Il n'y a rien. C'est-à-dire que ça repose sur du vide, quand même, cette décision de placement. On ne démontre pas un danger, on ne démontre pas que Louise et connaît un développement compromis. Au contraire, c'est une petite fille, au moment du placement en tout cas, c'est une petite fille parfaitement heureuse, parfaitement développée, très autonome. Les intervenantes de la crèche qui la connaissent depuis un an disent qu'elle a une super relation avec sa mère, avec autrui, qu'elle est autonome, qu'elle est très très bien. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a d'une part le fait que la décision de placement, elle ne s'appuie sur rien, il n'y a pas de danger qui est démontré.
C'est ce qui est fou, c'est ce qui est fou dans cette histoire.
C'est ce qui est fou, voilà, c'est ça qui est fou. C'est qu'il suffit de dire la décision pour comprendre que c'est un placement abusif. Après, on se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Et on regarde tout le dossier, et là, on découvre le profil de monsieur avec, effectivement, un lourd passé quand même délinquant, c'est pas non plus rien. Et puis, toutes ces manipulations sordides autour de tout son entourage qui va dénoncer des faits. Et puis, si on creuse un tout petit peu, on se rend compte que c'est n'importe quoi, que telle personne pourra dire que madame aurait fait, se serait comportée comme ça, puis on se rend compte qu'à cette période-là, en fait, elle n'est pas là. Enfin, voilà, tout, en fait, rien ne tient debout. Donc, c'est pour ça, pour essayer de détruire un petit peu cet édifice de mensonges qu'il a construit. Ouais.
Hein, il va falloir
a déposé ces plaintes.
Il va falloir vous armer de courage, Maître, parce que, en plus de ça, ce qui nous paraît incompréhensible ici, c'est que ça fait des mois que Pauline fait l'objet de menaces répétées, de menaces de mort, qu'elle a dû déménager plusieurs fois. Yvette, au 3921, nous demande, parce que Yvette suit cette affaire avec nous, sur Europe 1, c'est une auditrice, est-ce que Pauline est en sécurité aujourd'hui? Est-ce qu'elle est protégée? Est-ce qu'on a compris qu'en face, il y avait un père qui était capable de mettre à exécution ces menaces?
Alors, juste une petite précision, il n'a pas réitéré de menaces là cette année.
D'accord.
Mais il avait un ton menaçant, disons, et il me traquait, il voulait savoir où j'étais, et il faisait en sorte que je me retrouve à la rue. Il a appelé tout mon entourage, il a appelé mon garant, il lui a dit « j'ai une procédure devant le juge aux affaires familiales, il ne faut pas que mon ex soit logé ». Il faisait en sorte de me nuire complètement.
Ça s'appelle du harcèlement, Pauline.
Oui, j'ai reçu environ 40 SMS où il exigeait avoir mon adresse. Mmh. Et utilisant tous les prétextes, j'ai besoin de récupérer mon Tupperware. Maintenant, tout de suite.
En tout cas, on sera ici sur Europe 1 très attentif à ce qui va se passer. C'est la semaine prochaine, c'est quand?
Oui, c'est vendredi 23.
C'est le vendredi 23, donc vous ne manquerez pas de nous rappeler le lundi suivant pour nous raconter comment tout ça s'est passé, puisque vous savez, on est très attentif à votre affaire, à votre histoire, on est très attentif bien évidemment à ce qui va advenir de votre petite fille, parce que c'est ce qui est le plus important dans tout ça. On vous souhaite bon courage, Pauline, et puis vous semblez très bien accompagnée avec Maître Rongier, donc on espère de tout cœur que ça va bien se passer. Je crois que vous avez mis en ligne une tribune, non?
Oui.
Où est-ce qu'on peut la trouver, cette tribune?
Elle n'est pas encore parue pour le moment. Les associations qui me suivent la diffusent auprès du réseau de professionnels qui souhaiteraient prendre part. Mais ils l'ont mise sous forme de pétition en attendant pour qu'elle puisse être accessible aux citoyens qui souhaiteraient soutenir la cause.
D'accord.
C'est pas rédigé à proprement parler pour moi, en fait. Ça a rédigé pour dénoncer
le placement abusif.
Cette système.
Pas
forcément le placement abusif, mais le système qui a tendance à se retourner à charge contre les victimes de violences conjugales.
Dernière question pour vous, Maître Rongier. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'expérience encore, car je ne sais pas depuis combien de temps vous exercez, mais quel regard...
J'ai 10 ans de barreau.
Vous avez 10 ans de barreau. Donc quel regard vous portez sur justement ce qu'évoque Pauline, sur ce système? Est-ce qu'il ne vous paraît pas archaïque un peu? J'entends par là que souvent, le destin d'un enfant ou de plusieurs enfants, d'une fratrie, et donc le destin de parents aussi, puisque tout le monde est touché dans tout ça, souvent ça repose sur la vie d'une personne. Il n'y a pas de côté collégial dans toutes ces histoires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque?
Alors, oui, ça me choque. Moi, j'interviens quasi exclusivement même sur les violences conjugales, violences intrafamiliales, violences faites aux femmes. Et c'est vrai que c'est vraiment un domaine où on se rend compte qu'il y a des des principes effectivement archaïques, ancrés, qui demeurent, qui empêchent d'avancer. C'est des matières où on voit beaucoup de choses qui dysfonctionnent, qui ne vont pas. Et en fait, on se demande pourquoi on laisse reposer des décisions aussi graves sur une personne, sur un juge des enfants qui va prendre une décision sur une situation complexe. C'est toujours très complexe, hein, des schémas de violence conjugale, des dénonciations d'inceste, et qui va prendre une décision aussi grave sur la vie d'un enfant contre laquelle il y aura un recours qui donnera lieu à une audience 4 mois plus tard. Enfin, ça paraît délirant. À côté de, par exemple, la façon dont sont organisées les choses concernant la détention provisoire, où les détenus, ils ont des droits. Je ne vais pas comparer le cas d'un enfant placé et puis d'un détenu, mais en fait presque, quoi.
Bah, si, parce que c'est
grave.
La détention, c'est un placement.
Voilà, un détenu provisoire, il peut faire des demandes de mise en liberté tous les jours. Enfin, il a beaucoup de droits. Et là, c'est vrai que on se sent démuni, en fait. On se sent impuissant. Il y a eu une juge des enfants qui a pris une décision sur la base des rapports très confus des services sociaux.
Mais souvent, c'est ce que je vous dis, c'est que vous dites ces services sociaux, mais ces services sociaux sont souvent représentés par la voix d'une éducatrice ou d'un éducateur en charge de l'enfant.
Ouais,
c'est
fait.
Ça que je vous dis. Et vous avez raison de comparer le placement d'un détenu où, finalement, il y a un procès où on va plaider le procureur, le juge, les témoins. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup plus de collégialité. Je ne sais pas si ça dit collégialité, mais si, je crois.
Collégialité. Ou alors il y a un premier juge qui décide de saisir un autre juge pour le placer en détention. Il y a un procureur qui se prononce.
Exactement.
Il y a effectivement une collégialité. Il y a plusieurs échelons. Et puis là, c'est brutal, quoi. C'est une audience, une juge. Et surtout, il n'y a pas eu de mesures intermédiaires, il n'y a pas eu d'assistance éducative. Au départ, Pauline, quand elle s'est jugée d'enfant, c'est pour être aidée face à la situation très inquiétante dans laquelle est sa fille, et elle demande une assistance éducative. Elle vient chercher l'aide du juge des enfants.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis, en une audience,
ça bascule.
Une décision radicale.
Oui.
Ça bascule complètement. Au péril de cette petite fille qui est aujourd'hui sans sa maman, sans sa maison, sans ses jouets, qui a été ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil. C'est terrible, en fait.
Encore une fois, je le rappelle, les bonnes oreilles entendantes et concernées ici, nous serons très attentifs à ce qui se passera lors de cette audience. Et j'espère que vous pourrez nous rappeler, Pauline, pour nous tenir au courant. En tout cas, on vous souhaite bon courage, Pauline. Et puis, maître, soyez bonne.
Hein. merci beaucoup, Olivier Delacroix, pour votre intérêt.
On vous embrasse et puis on vous souhaite plein de courage. Bonsoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci beaucoup. Bonsoir.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Il est 23h46 sur Europe 1. Je vous rappelle que vous pouvez appeler Florian ou Julia qui vous attendent ici dans la régie du studio Coluche à Europe 1, 3921. Un petit disque d'accueil d'Europe 1. Vous tapez le 1 pour leur parler directement. On accueille David maintenant. Bonsoir David.
Bonsoir Olivier, j'espère que vous allez bien.
Oui, ça va. Et vous?
Moi, c'est très dur.
Merci
pour votre empathie. Et puis
je vous en prie.
Votre professionnalisme, même si vous ne faites pas partie du cercle des psychologues et des psychothérapeutes, tout ça, vous êtes quand même assez doué quand même pour aider les gens et puis les guider.
Écoutez, on essaye, on fait ce qu'on peut. Quel âge avez-vous, David?
Alors moi, j'ai 51 ans.
Oui.
Donc, je suis déjà passé avec je suis arrêté depuis 3 ans, hein, je suis en arrêt maladie depuis 3 ans.
Oui.
Et je suis déjà passé 3 fois, je crois, dans l'émission, parce que j'avais des problèmes. Donc, suite à mon arrêt maladie, qui était dû à une dépression, et j'avais un problème de vue, donc je suis déjà passé avec Sabine Nara.
D'accord, très bien.
Aujourd'hui, donc, la journée a été très dure, parce que là, je suis arrivé très bas. J'étais en train de faire, vous n'allez pas me croire, mais... donc je dois être licencié dans un mois, parce que j'arrive au terme de mes 3 ans.
Et, que faisiez-vous?
J'étais donc électronicien dans une grande entreprise, on va dire, un technicien.
Mmh, d'accord.
Voilà. Et aujourd'hui, vu que ma santé s'est énormément dégradée, on ne trouve pas, par rapport à plein d'examens, on ne trouve pas les causes de mes problèmes. Notamment aux pressions à la poitrine, là j'ai des problèmes gastriques assez abominables, donc j'ai fait plein d'examens, on ne trouve pas, donc je dois revoir un cardiologue. Et là aujourd'hui, donc vu que moi j'ai pas d'héritier, j'ai pas de voilà, donc j'ai pas d'enfant, j'ai pas de compagne. Hein. Donc j'étais en train de faire aller tous les dossiers, donc j'étais en train de regrouper tous mes crédits et contacter toutes les banques pour faire des assurances d'essai au cas où il m'arrive quoi que ce soit avant de pouvoir solder mes. Parce que quand je vais partir de mon entreprise, j'aurai un solde tout compte. Donc là, je vais solder tous mes petites dettes que j'avais. Mmh. Et j'ai pas envie de. Bah, aujourd'hui, j'étais en train de faire ça. Parce que je me suis dit, voilà, j'ai été éduqué de telle façon que voilà, bah, moi, je laisse pas. Voilà, du. Et voilà, je vais pas laisser des dettes derrière moi. Et j'ai peur, voilà, donc il me reste un mois avant de. Un mois, donc, avant d'être licencié. Parce qu'après, il y a une procédure là, qui va rentrer en. Qui va rentrer en cours. Et donc là, j'étais en train de remplir ces papiers-là. Alors, je peux vous expliquer mon parcours, parce que ça va peut-être aussi. Comment je suis arrivé là. Ça va
oui, je comprendrai un peu mieux et je pourrais peut-être vous donner deux, trois conseils. Voilà, ça remonte à quand cet état?
Alors, je vais vous expliquer. Moi, j'ai fait 30 ans. Alors, moi, je suis quelqu'un à la base, donc je suis un. Autrefois, bon, quand j'étais petit, on avait dit à mes parents, votre fils avait énormément de capacités, mais voilà, les hauts potentiels, autrefois, vous savez, on les détectait pas. Et puis, bon, on s'occupait pas de ça, donc voilà, bon, c'est passé à la trappe. Moi, j'ai fait une carrière dans le technique, dans une usine que je ne citerai pas. Alors que donc, j'avais des grandes capacités, et puis normalement, voilà, j'étais plus quelqu'un axé sur le social et l'artistique. Donc j'ai malheureusement, enfin, j'ai fait mon trou comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est arrivé à un certain âge, quand on part du cercle familial, on a un boulot, même s'il n'est pas, c'est pas le boulot adapté. Donc de toute façon, par rapport à mes études, moi de technicien, donc j'ai pris le poste. Et puis voilà, on a sa maison, on a ses biens, et puis voilà, on veut rentrer dans le système. Donc j'ai fait 30 ans dans une entreprise.
Oui.
Avec 25 ans, notamment sur la fin d'alternance de jour, nuit, week-end. Mmh. Les dernières années, j'avais des antidépresseurs. Mais qui, dernières années, parce que je ne supportais plus, voilà, donc j'avais des. C'est pas que je pétais les câbles, mais je m'énervais très rapidement, donc ça n'aidait plus, quoi, voilà, parce que donc, j'étais quand même déréglé. J'ai fait donc une psychothérapie. Ce qui était ressorti de cette psychothérapie, donc ça allait bien à peu près à l'époque, parce que je sauvais ma peau grâce à ce que je faisais en dehors du travail, parce que j'avais plein d'activités en dehors de mon travail, donc je sauvais ma peau grâce à ça. Et la psychothérapeute m'a dit, vous irez mieux, voilà, donc tant que le jour, vous passerez deux jours. Et pareil, j'avais un médecin qui m'a dit, j'ai eu un soupçon de bipolarité chez vous, donc j'avais été voir un psychiatre qui m'avait répondu exactement la même chose. Vous reviendrez me voir quand vous aurez des horaires normaux. Et peut-être que là, ça ira mieux. Parce que alterner jour, nuit, week-end pendant 25 ans, je ne vous raconte pas les dégâts. Bon. Mmh. Alors, donc j'ai un médecin donc, qui m'a. Donc, j'ai été. Donc j'ai mon médecin du travail qui. J'ai été voir mon médecin du travail pour être classé deux jours. La personne qui s'occupait donc, voilà, de mon service. Donc j'ai été la voir, donc elle avait eu le mot du médecin du travail, donc elle a dit oui, comment le médecin du travail peut donner des consignes, c'est le service qui compte, nous on peut pas se permettre de faire passer, donc on a besoin que les gens alternent, donc il considéra que la santé était donc au second plan. Et donc il m'a dit, par contre il m'avait promis, donc ne vous inquiétez pas, si là il y aura des changements dans l'entreprise, ne vous inquiétez pas, quand il y aura des changements bientôt, vous serez invité donc à des nouveaux postes, un reclassement. J'ai dit, je suis ouvert à tout, moi je peux faire de la mécanique, l'informatique, je suis ouvert à tous les postes. Et malheureusement, un an plus tard, ce qui s'est passé, il y a eu 4 ou 5 changements dans le service, j'ai été invité à rien. Donc là, je suis tombé très bas, donc ça m'a fait énormément mal. Mes collègues, enfin tout le monde était au courant, vous savez, c'est un peu comme dans un couple, c'est celui qui a les cornes qui est le dernier au courant. Donc tout le monde le savait, puis moi j'ai pas, voilà. Donc je suis resté, donc à devoir tourner à perpète jour et nuit. Et puis mon médecin a commencé à mettre sous anxiolytique. Alors ça c'est de la saloperie, donc il m'a commencé à me donner du Xanax. J'avais arrêté les antidépresseurs, donc ça allait très bien. Et puis donc fin 2019, j'ai fini aux urgences. J'ai fini aux urgences parce que voilà, donc tachycardie. Pression artérielle très élevée, donc on disait que c'était une crise d'angoisse. Bon, Et puis mon médecin a commencé à me bourrer de voilà, il me dit voilà, vous êtes anxieux, c'est pour ça. Il a commencé à me bourrer de, il a essayé de me filer certains antidépresseurs qui marchaient pas, il m'a bourré d'anxiolytiques. Après aussi j'étais, alors j'ai eu tous les maux du monde, hein. J'ai eu avec les médocs, je m'endormais, j'ai eu des débuts de paralysie de la main, du bras, puis j'avais des maux, j'avais des nausées tout le temps. Enfin, je ne pouvais pas, je pouvais plus vivre quoi. J'avais des maux tout le temps. Et puis à un moment, il s'était rendu compte qu'il me surdosait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux traitements médicamenteux. Voilà, c'est des traitements médicamenteux. Moi, j'estime qu'on est dans une société où là, on fait du long terme. Et ça doit être normalement ponctuel. Et donc, ce qui s'était passé, c'est que bah, pour mes maux gastro, là, donc j'avais des envies de vomir, des ballonnements, enfin voilà, je ne vivais plus, quoi. Il s'était rendu compte qu'il me surdosait depuis des années. Donc là, du jour au lendemain, il a remis un dosage normal et puis là, c'est revenu bien. Bon. Mais entre-temps, donc, j'avais eu des problèmes de vue. Donc la vue, donc, ça ne commodait plus au niveau de la vue. Je voyais de plus en plus sombre. J'avais de la photophobie et tout. Puis ça se cassait la tronche.
C'est quoi la photophobie ? La photophobie,
alors, photophobie, alors je vais vous expliquer. Bah, la photophobie, c'est ébloui par la lumière très forte. Hein. Alors que je n'avais pas ça avant. Oui. Et je voyais de plus en plus sombre. Hein, donc je voyais de plus en plus sombre. C'est-à-dire que vous allez rire. Hein, j'ai doublé, par exemple, dans mon... J'ai doublé la puissance de mon éclairage dans toutes les maisons. Dans mon garage, j'ai doublé la puissance de mon éclairage. Dans ma voiture, je suis passé à 200% d'éclairage au lieu de 100%. voilà, je voyais de plus en plus sombre. Et puis en plus, vu que j'avais donc d'autres pathologies au niveau des yeux, j'étais quelqu'un d'hyperactif qui faisait absolument tout. Donc je faisais du... Je faisais des animations, je faisais du modélisme, je faisais de l'informatique, j'ai été en simulation en jeu, je faisais des jeux, j'ai battu notamment quelqu'un de très célèbre que je ne citerai pas, donc un coureur automobile très célèbre que je ne citerai pas.
Bah si, pourquoi vous ne citez pas?
Bah, si. Oh, parce que bah, je vais pas le dire, c'est qui j'ai battu en simulation, c'était un coureur très célèbre, on va dire, voilà, j'ai battu en simulation, voilà. Je faisais de la mécanique, voilà, parce que voilà, ça c'était le côté au potentiel que j'ai découvert, je me rendais même pas compte hein, que j'avais un haut potentiel, qui a été découvert par hasard, voilà, donc sur la fin, il y a même pas un an, quoi. Et ma vue donc se casser la tronche, j'étais de plus en plus fatigué, j'avais des phénomènes par moment dans la journée où hop, je partais en live comme des mini comas. Et pendant le début de ma maladie, j'ai eu le malheur de j'ai eu une compagne avec une en plus dans une on a eu une relation, c'était très violent parce que c'est quelqu'un qui avait aussi des soucis de santé et quelqu'un qui avait des crises moi je suis quelqu'un de très calme à la base, même si je suis rapidement, je suis quelqu'un de très calme, très posé. Et bon, ça m'a tiré vers le bas pendant 2 ans, donc ça a été une relation très violente. Et donc ça a dû s'arrêter, donc ça s'est arrêté fin l'année dernière. Il était temps, hein, parce que c'était un neveu de je t'aime moi non plus. Et donc ça m'a tiré vers le bas pendant 2 ans, mais moi, quelque part, je suis resté dans la relation parce que j'étais dans une détresse, je ne pouvais plus rien faire par rapport notamment à la vue. J'étais dans une détresse telle que on se soutenait l'un à l'autre, même si c'était une relation relativement violente. Il y avait le Covid en plus à l'époque. Il a fallu supporter le Covid, il a fallu supporter beaucoup de choses. Donc la relation s'est arrêtée. Et là, donc, je suis retourné tout seul dans ma pénate. Voilà. Et je me suis rendu compte par... Alors voilà, là, c'est pour prévenir les gens par rapport au... Alors, un de mes symptômes de problème de vue était dû au benzodiazépine, c'est-à-dire le Xanax et les somnifères. Parce que mon médecin, je lui demandais, c'était très bien, ça faisait effet. Hein, donc les benzodiazépines, le Xanax, ça faisait, ça calmait. Et les somnifères, ça endormait. Et puis un jour où j'étais chargé, c'est-à-dire que ça n'allait pas, j'ai voulu me rendre, le matin, je me réveille, parce que vous savez, quand vous n'avez plus de projet dans la vie, vous n'avez pas envie de vous lever, en dépression.
Oui.
Et puis voilà, qu'est-ce que je fais? Je prends des somnifères, et puis je prends du Xanax, je me rendors. Et puis donc, en milieu d'après-midi, en fin d'après-midi, on doit être en hiver, en hiver, un truc comme ça. Je me rends compte, plus de photophobie, j'ai compris. Donc c'était en réalité plus d'éblouissement par rapport au phare des voitures. En gros, c'était tous les benzodiazépines qui jouent sur les neurotransmetteurs, qui avaient mes liaisons au niveau des neurotransmetteurs de la rétine et qui me causaient de la photophobie. Et après, donc par contre, si j'avais des benzos, ben voilà, donc si j'avais des benzodiazépines, ben j'avais plus de photophobie. Et donc aujourd'hui, donc j'ai été deux fois en maison de repos. Donc on a commencé à me sevrer de ces saloperies-là. À cause de ça aussi, j'ai eu maintenant, donc j'ai une maladie, enfin c'est pas une maladie, enfin qu'on appelle l'anédonie, c'est-à-dire j'ai plus de goût à rien. J'étais quelqu'un qui vibrait, par contre quand j'entends une musique, maintenant ça ne fait plus rien. Je ne rigole plus devant, par exemple, Dorette de Funès, devant un film, voilà. Voilà. Je ne réagis plus des reportages sur l'aviation, parce que moi j'étais pas sur une aviation aussi, voilà. Ça ne fait plus rien, voilà. C'est voilà, l'anédonie, moi plus de goût à rien. Du jour au lendemain, vous ne comprenez plus pourquoi.
Oui.
C'est-à-dire que vous êtes totalement connecté et vous n'avez plus de goût à rien. Donc ça, c'est dû aux benzodiazépines. Et ça a même été tellement loin avec ces benzodiazépines que j'ai pris à long terme. Hein. Bon, ce n'était pas des doses énormes, que j'ai même fait ce qu'on appelle de la dépersonnalisation. C'est-à-dire que j'étais chez une ancienne campagne au Nouvel An. Et c'est-à-dire que je faisais des gestes. Hein. Donc j'aidais à préparer, mettre la table et tout, mais je n'étais pas là. C'est-à-dire que vous êtes un zombie. C'est-à-dire que vous agissez, les gens croient que vous êtes là, mais je dis, mais elle me dit, mais non, t'es normal, machin. Je dis, non, je ne suis pas là. Je n'ai plus aucun, voilà, je fais des gestes automatiques. Et là, c'est horrible. Quand je conduisais, c'est pareil. Hein, donc voilà, donc j'avais. J'étais pas dangereux parce que voilà, donc j'avais tous les réflexes et tout ça, mais j'étais pas dans. Voilà, je ne ressentais pas, en gros, mes fesses sur le siège de la voiture, quoi. Voilà, c'est comme si j'étais pas là. Donc attention, voilà, donc les benzodiazépines. D'ailleurs, il faut savoir qu'aux États-Unis, je crois que c'est dans certains pays, c'est interdit, voilà, le Xanax, la vente de Xanax. Enfin, nous, c'est voilà, les médecins qui prescrivent.
En tout cas, on peut remarquer que, en tout cas, se faire la remarque que vous avez eu régulièrement des ordonnances pour consommer ces choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé. On va marquer une pause, on va laisser passer l'info, si vous le voulez bien, David, et puis on vous retrouve juste après. Oui. À tout de suite.
Okay, à tout de suite.
Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est la Libre Antenne. Vous pouvez continuer à nous joindre au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Pour le moment, nous sommes avec David. David qui nous compte sa chute, en fait, une descente aux enfers qui a commencé maintenant depuis 3 ans, puisque David, vous nous dites être malade depuis 3 ans, avoir consommé beaucoup de benzio, comment on appelle ça ?
Benzodiazépine, c'est-à-dire que c'est benzio, donc, des anxiolytiques, oui. Anxiolytiques, le Xanax, hein, le but qui est très connu.
Benzodiazépine, c'est pas facile à dire, mais voilà.
Ah, oui.
Ce sont tous ces médicaments pour enlever les angoisses, enfin, il y en a toute une tripotée.
Ça joue, ça enlève l'hypersensibilité. J'étais quelqu'un d'hypersensible, ça enlève l'hypersensibilité aux gens. Mais ça fait des dégâts à très long terme, quoi. Donc normalement, les prescriptions pour ces médicaments-là, ça devrait être 3 mois, et ça doit être prescrit par les psychiatres et pas les médecins traitants, quoi.
Alors, David, je lis que vous étiez un homme hyper dynamique, épicurien,
qui
faisait mille choses.
Ouais. J'ai même écrit deux bouquins.
Ouais. Vous n'avez plus goût à rien. Que s'est-il passé, en fait ? Quelle est l'origine
C'est par rapport à la vue. Par rapport à la vue, parce que donc, je faisais beaucoup de choses en intérieur chez moi. Et vu que voilà, je m'adapte pas, donc, par exemple, à mes lunettes progressives, donc je suis obligé d'avoir 3 paires de lunettes pour faire un travail. Ma vue se casse la tronche.
Ça a eu un impact sur votre travail, je suppose, en tant qu'électronicien en plus. Il faut avoir une bonne vue pour ça.
Au départ, oui et non, c'est-à-dire que ça a commencé, oui, avant que je sois parti aux EVAC, avant mon arrêt de travail, qui date de plus de 3 ans, je m'étais rendu compte que je voyais plus sombre, que la vue avait baissé. Bon, je m'étais rendu compte de ça au mois de juin, et en sachant que mois de juillet, que mon arrêt avait commencé au mois de septembre. Je m'étais rendu compte qu'il y avait eu un problème, mais ça ne me dérangeait pas trop à l'époque, et puis ça s'est cassé la tronche très vite. Le sevrage en maison de repos de cette benzodiazépine a été fait par du Valium pour remplacer ça. Donc, par rapport au Valium que j'ai maintenant, donc j'ai moins de photophobie, mais j'ai toujours de la vue, une vue relativement assombrie par rapport à certaines personnes. J'ai besoin de plus de luminosité.
Oui.
Et je ne supporte pas, voilà, donc j'ai du mal, voilà, parfois je ne comprends pas, je vois flou, j'ai beau mettre tous les types de lunettes. Et j'ai une autre anecdote à vous donner par rapport à ça. Donc je pense aussi que c'est dû à l'addiction, parce que j'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup sur écran. J'ai utilisé beaucoup mon smartphone.
Oui.
Et vous connaissez la lumière bleue. Oui. Et moi, je vais vous donner un critère technique hein, qui va intéresser tous les auditeurs, qui est quand même assez, voilà, assez scandaleux. C'est un scandale dont peut-être on parlera, voilà, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. On est en train de faire des aveugles. Parce que sur le spectre de sur ce qu'on appelle le spectre de lumineux, donc il y a une longueur d'onde, chaque couleur a une longueur d'onde. Et la lumière bleue nocive, la longueur d'onde se situe entre 415 et on appelle ça entre 415 et 455 nanomètres. Mmh. Nos LED aujourd'hui, qui nous servent à nous éclairer, qui servent aux phares des voitures, qui servent aux écrans d'ordinateur. C'est quoi la longueur d'onde? C'est 420 et 450 nanomètres. Et ça détruit, donc ça stresse la rétine, et ça détruit donc au fur et à mesure, donc voilà, ma rétine. Et là, donc on est en train de faire donc plus ou moins des générations. Voilà, il y a des gens qui se sont plaints. Moi, j'ai lu des témoignages des gens qui se sont plaints, voilà, qui voyaient après utilisation d'ordinateurs, là, les premiers ordinateurs LED, qui se sont plaints, voilà, de voir plus sombre, d'avoir des problèmes de vue. Et parce qu'en gros, finalement, donc, la lumière bleue donc, qu'on nous impose aujourd'hui, de la technique parfois des serlums, c'est la longueur d'onde qui est utilisée pour ces LED. C'est la plus nocive pour la rétine et qui va détruire, qui va faire des DMLA avancés dans les années à venir. En plus, il y a eu des aberrations qui ont été faites. C'est-à-dire que vous avez, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, quand vous prenez la route aujourd'hui, et vous voyez que non, il y a ce qu'on appelle les lumières, l'éclairage diurne de toutes les voitures. Hein. Parce qu'en 2011, a été voté par l'Europe. C'était au départ les pays du Nord, ils devaient s'éclairer parce que les pays du Nord européens vivaient plus dans la nuit que nous, donc avaient des nuits plus longues. Et donc l'Europe a voté en 2011 sur les nouveaux véhicules l'éclairage diurne obligatoire. Donc au départ, c'était de l'éclairage halogène parce que ça, les LED, on s'est dit que ça coûtait cher. Et puis au fur et à mesure, on a commencé, plus on produit en série, moins ça coûte cher. Donc maintenant, tous les véhicules neufs quasiment sont équipés d'éclairage diurne à LED, mais qui sont très nocifs, très très nocifs pour les yeux. Mmh. Donc à chaque fois, c'est un coup de stress pour la rétine. Et on s'en rend pas compte, hein, mais c'est un coup de stress pour la rétine et ça abîme au fur et à mesure, ça abîme la rétine. Et en plus, il n'y a pas eu de normes qui ont été faites par rapport à ça, c'est-à-dire que les constructeurs, ils se sont amusés. Les constructeurs auraient pu faire ce qu'on appelle une lumière plus chaude, c'est-à-dire aller sur un spectre lumineux avec une longueur d'onde différente. Non, on a fait de la lumière blanche très forte. Et donc, ça stresse la rétine et c'est vraiment des... ça sera la cause dans plusieurs années de cause de DMLA. Donc on est en train de subir, c'est un peu comme les médocs. Oui.
On va pas partir sur... on se concentre sur vous, d'accord ?
Voilà, sur moi.
D'accord.
Donc, ça s'est dégradé encore plus mon état de santé parce que j'ai des douleurs dans la poitrine. J'ai fait un coroscanner qui était soi-disant bon. Et mon cardiologue m'a appelé et m'a dit non, parce que vous avez quand même une hypercholestérolémie. Et vous avez de l'hypertension, donc il va falloir refaire un test d'effort, peut-être un autre test plus approfondi pour le cœur, pour pas que ça se dégrade, parce que j'ai des lésions non significatives au niveau des artères, mais qui peuvent empirer. Et aujourd'hui, j'ai une oppression à la poitrine qui est constante. Dernièrement, j'ai fait comme un début d'infarctus, donc j'ai pris tout de suite deux aspirines et un bêta-bloquant. Et puis je suis complètement bloqué au niveau des intestins. Donc je vais prendre des médicaments pour débloquer les intestins et donc je suis dans un état pitoyable. Donc aujourd'hui j'étais en train de rédiger des assurances d'essai au cas où il m'arriverait quelque chose pour pas que mes parents récupèrent s'il m'arrive quoi que ce soit des dettes quoi. Voilà. Mmh.
Je lis que tout le monde vous lâche. Et que vous ne savez plus quoi faire.
Ah oui, c'est...
Pourquoi
ah oui,
ça
oui. Parce que vous donnez... j'étais quelqu'un de très vivant, je faisais des animations très rigolos, j'étais les personnes à connaître. Et vous devenez toxique. Quand vous êtes malade, vous devenez... D'ailleurs, moi, s'il y a des gens qui veulent bien, dans la région Bretagne, qui veulent bien, je ne sais pas, aller discuter avec les marchés, je suis du tout côté de Brest, dans la région de Bretagne. Donc, je suis à Morlaix. Et ouais, moi je veux bien parce que quand vous êtes dans la maladie ce qui vous aide le plus à sortir c'est le social, c'est les autres, c'est soit les activités, soit le social, soit le dialogue, parce que sinon vous êtes tout seul dans votre monde, vous rembobinez le film, mais ça, voilà, ça n'arrange pas. Voilà, ça n'arrange pas la maladie, quoi. Voilà. Mmh.
Vous avez des idées noires qui vous traversent la tête un peu, David ?
Oui, oui, oui. Alors, par exemple, avant, je pouvais dormir, quand je dors, quand j'ai mon compte de sommeil, quand j'arrive à dormir, donc c'est bon, c'est difficile. Et quand je me réveille, c'est une catastrophe. Voilà, c'est des idées noires. C'est, je suis obligé de me lever. Si je me lève pas, c'est des idées noires. C'est voilà, c'est tous les soucis, tous les problèmes que j'ai, parce qu'il m'arrive, avec des tuiles, hein, depuis que je suis en, voilà, en gros, il m'arrive une tuile par jour depuis que je les cumule, depuis que je suis en, voilà, en arrêt maladie, il m'arrive des tuiles financières, des trucs improbables qui me sont arrivés, voilà, par jour. Donc, par jour, je dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver demain? Alors, je sais pas, on peut appeler ça, je sais pas, la physique quantique, voilà, le négatif qui attire le négatif, je ne sais pas. Mais, voilà, aujourd'hui, j'ai extrêmement peur de passer à la trappe et de pas de ne serait-ce que de ne pas voilà parce que moi j'avais des projets hein, j'avais des projets après mon licenciement de publier mes livres par une maison d'édition parce que là j'ai fait ça j'ai fait un premier livre par Amazon hein, c'est un auto-éditeur donc vous avez pas de pub vous avez rien donc là vous mettez pas le pied voilà dans le monde au monde de l'écriture, vous n'avez pas de vente parce que c'est de l'auto-édition. Et après, moi, j'étais pareil, j'ai des plus grandes collections de l'Ouest, on va dire, de miniatures automobiles. Donc, je voulais faire un musée. Mm-hmm. Donc, j'avais plein de projets, quoi. Et puis aussi, c'était aussi dans le... Voilà, je voulais aussi, parce que donc, je faisais aussi de la chanson, je voulais voilà, faire quelques petits trucs voilà, au niveau musical. Mais voilà, aujourd'hui, je suis tellement malade que j'ai plus, voilà, je sais plus. Puis voilà, puis j'ai pas de. Les gens, voilà, tous les amis que j'ai, donc je les ai par téléphone. Mais j'ai plus de. Voilà, j'ai pas. Je suis dans mon. donc, je me sauve, alors tous les jours, voilà, la façon dont je me sauve un peu de ce monde-là, c'est. J'arrive, me lève très tard, parce que j'ai du mal à me lever. C'est une fois un palan de 3 tonnes pour me lever. Je prends ma voiture, je fais 15 km, et puis je fais un peu de marche à pied en bord de mer. Voilà, c'est la seule chose qui sauve ma peau aujourd'hui, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer un peu, évoluer vers quelque chose de plus vivant de votre point de vue ? Qu'est-ce qui pourrait améliorer votre quotidien et que vous avez vous en vous ? Vous écoutez souvent cette libre antenne David ?
Oui, j'écoute souvent. Bon. Oui, j'écoute tous les soirs, donc. J'ai arrêté la télé parce que là, ma vue n'est pas top, donc j'ai arrêté la télé, oui. Et puis donc je vous écoute, et puis j'écoute après en de là, après quoi.
D'accord. Alors, voilà. Moi, je pense que il vous faut, comme je le disais à Maggie hier, comme je le dis souvent à des personnes qui sont dans le dur hein, de la dépression.
Ah, oui, dans le très dur. Hein.
Il y a de toute façon quelque chose qu'il va vous falloir faire. Vous. Parce que personne ne pourra le faire à votre place.
Ah ouais, je sais, j'ai vu ça plusieurs fois.
Et vous habitez la Bretagne, je vois, vous habitez une belle région. Vous êtes pas loin de la mer ou vous êtes
où ? Oui, je suis à 10 km de la mer, après à 15 km dans les sentiers côtiers, on va dire.
Bon, vous vous rendez compte ? Alors, il vous faut vraiment prendre des plaisirs simples, vous voyez ?
Il vous faut. C'est l'anédonie, je ne ressens plus les choses, quoi. Donc, ça me fait du bien, voilà, de sortir, des activités. Même si je ressens plus les choses, faire des activités, ça fait du bien parce que ça occupe le cerveau.
Oui, exactement.
Et ça fait du bien quand même, même si vous n'avez plus la récompense, voilà. D'ailleurs,
mais la récompense, vous pouvez l'avoir. Hein. La récompense, vous savez, après 5-6 kilomètres de marche pendant une heure et demie au bord de l'océan, je peux vous dire que je vous le promets même, je vous le jure, que si vous vous mettez dès demain, vu que vous êtes en arrêt, à vous offrir 2 heures chaque jour de marche au bord de l'océan, au bord de la mer, vous allez vraiment en avoir les comment on dit, je perds mon vocabulaire. Les bénéfices, merci Florian.
Alors, je fais 3 km par jour. Quoi,
oui, mais ce n'est pas assez 3 km par jour. Il faut faire un peu plus. Il faut aller vous aérer. Alors, je ne vous dis pas que ça va résoudre tout, hein, David. Mais il faut que vous ressentiez à nouveau. Vous savez, c'est comme un fil. Je pense que quand on est dans la dépression, on n'a plus envie de se lever. On est triste. C'est vrai, vous avez raison. on commence à emmerder les autres parce que
ah,
peut-être
puis le
on...
corps, et puis le corps,
voilà, puis le corps fait mal.
Toutes les pathologies que j'ai somatiques sont dues, sont arrivées grâce à cause de la dépression. C'est-à-dire
et
que
tout ça,
je faisais entre 12 et 20 km par jour avant.
Ah oui, alors vous savez voilà. qu'avant tout ça, ouais. vous faisiez du bien. Et ouais. aujourd'hui, ça va vous demander un effort. Ça va d'abord vous demander un effort psychologique, hein, c'est de déclencher le fait de poser des actes. Poser des actes, c'est, voilà, il est 11h, ou alors il est 13h, je viens de déjeuner, ou comme vous voulez. L'heure que vous choisissez, que vous aimez. Peut-être ce sera 16h, parce que vous aimez la fin de l'après-midi, je ne sais pas, c'est vous qui choisirez. Mais je pose cet acte, je me pousse aux fesses, je vais marcher 2 heures, et pendant ces 2 heures, je vais essayer de méditer, je vais essayer de respirer, je vais essayer de me souvenir de tous ces moments où j'avais pas toutes ces galères, mais ressentir un peu la vie, le monde sur lequel, dans lequel vous vivez, la terre sur laquelle vous marchez, il y a, je pense, dans l'équilibre, dans l'équilibre, celui qu'il ne faut pas perdre, cette conscience que on est seul, hein, David. On est seul, on est tous seuls. Regardez, regardez le nombre de temps que l'on passe seul dans notre vie.
Ah oui. Hein? D'ailleurs, même quand on est en couple, on dit toujours qu'on est toujours seul.
Bien évidemment, évidemment. Oui. Même si on partage, on est tout dans sa tête. Hein. Bon, à moins d'être plusieurs dans sa tête, mais là, il faut s'inquiéter. Mais voilà, mais voilà, on est seul, on interprète, on pense, on reçoit l'information, on la digère, on l'interprète, on... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, c'est cette solitude-là dont je parle. Et là, aujourd'hui, il vous faut choquer un petit peu à nouveau votre quotidien. Il faut le secouer un peu, ce quotidien. Il faut le changer en vous forçant à faire un truc qui n'est pas compliqué à faire.
Ouais. C'est la vue qui m'embête un peu le plus parce que.
Mais la vue, vous pouvez marcher au bord de la mer. Là, vous voyez encore assez pour ça.
Oui. Mais c'est la vue de près, donc je peux plus faire. J'adorais surfer sur ordinateur, chercher des pièces pour l'automobile, faire la mécanique et tout. Et le fait de, j'ai une frustration énorme parce que j'étais hyper actif.
Mais aucune correction lunette ne vous arrange la vue ?
Non. Alors la dernière fois, donc j'ai essayé. Alors, je vais donner une petite info sympa. J'ai un guérisseur qui m'a donné une plante qui m'a dit vous avez un problème de dopamine par rapport à vos antidépresseurs. Et puis il m'a conseillé du mucuna. Alors ça c'est très efficace. C'est une plante. Hein, je prends 2 pilules le matin. Et c'est un petit pansement provisoire, mais ça donne un petit... C'est la version naturelle du L-Dopa, quoi. Ça donne un petit coup de pied aux fesses, quoi. Voilà. Mais par contre, voilà, au niveau de la vue, pour vous expliquer, dernièrement, j'ai essayé de dépanner mon congélateur, il m'a fallu 3 paires de lunettes, quoi.
Vous avez vu quelqu'un pour vos yeux, bien évidemment.
J'ai vu plusieurs personnes, mais...
Qui vous disent quoi?
Alors, ils vont aux examens les plus simples. La dernière personne, j'ai rigolé parce qu'elle parlait pas français. Elle m'a dit « Vous avez les yeux secs », donc elle m'a donné des gouttes pour les yeux. Et moi, ce que je voulais faire, c'est donc voir si, tout simplement, il y avait une petite atteinte de la rétine en faisant ce qu'on appelle une angiographie rétinienne. Là, ça peut être prescrit par le médecin généraliste. Et voir si c'est un début de cataracte, pas spécialement la lampe passante, par l'examen, ce qu'on appelle OQS, donc c'est un examen qui mesure l'indice de réflexion du cristallin, quoi. Mmh. Qui pourrait expliquer que soit j'ai un début de cataracte qui n'aurait pas été détecté à la lampe passante, ou soit c'est un problème de vieillissement de la rétine accélérée, quoi.
Alors, justement, en fait, je vois, et on a plus beaucoup de temps, parce qu'il y a encore beaucoup de monde ce soir, je vois que vous ne savez plus quoi faire de vos journées, c'est ce que vous m'avez écrit. Et bien dans cette journée, il va vous falloir là, vous êtes maître à bord, David. Vous êtes maître à bord. Là, personne ne va venir vous chercher. Peut-être des mains vont se tendre, mais elles ne commenceront à se tendre que lorsque vous aurez remis les couverts, décidez-vous de relever la tête et de vous offrir des moments qui vont vous faire non seulement du bien, mais qui vont vous faire évoluer dans votre manière même de vous voir, vous, d'appréhender la vie. Yvette nous demande, en fait, si... je crois que c'est Yvette. Non, c'est Marie qui nous demande au 739-21 si vous avez demandé une reconnaissance d'invalidité.
Oui, je passe en invalidité à la fin du mois.
Ok, très bien. Ouais. Vous voyez, il y a un moment dans la vie...
Travailleur handicapé.
Bon, il y a un moment dans la vie quand le corps nous fait défaut. Hein. Il faut... Hein. Vous voyez, hier soir, on discutait avec Maggie, elle a perdu la vue, mais elle s'est battue, elle a fait les enfants, vous avez entendu. Il faut se battre. Il faut se battre. On a deux solutions. On n'en a pas 36. On en a une à droite, c'est de se battre, et une à gauche, c'est celle qui va nous mettre le caillou avec la ficelle, avec la corde au bout du pied et nous faire encore plus tomber profondément. Et je pense que je sens encore assez d'énergie en vous pour que vous fassiez le bon choix, David. C'est d'accepter, en fait. Parce que je crois déceler que vous avez du mal à accepter tout ce qui s'est enchaîné là et la perte de votre travail, tout ça. Et c'est normal. Mais il faut que vous analysiez tout ça. C'est normal que vous soyez blessé. C'est normal que vous ayez eu des déboires avec tous ces benzodiazépines. C'est long comme truc. Hein, il pourrait faire un truc plus simple. Benzo. C'est ça que les médecins disent. Les benzos.
Ouais, c'est les benzos. Ouais.
Voilà. Il vous faut décider quelque chose. Et je vous jure que poser des petits actes comme ça, eh ben, on en pose un peu plus au bout d'une semaine, au bout de 15 jours. On le sent progressivement. Mais c'est dans vos mains, David. C'est dans vos mains. Vraiment, il faut que vous preniez conscience de ça.
Donc c'est bon, ils mettent par téléphone. Donc ses parents, je suis en train de couper les ponts parce qu'ils sont très anxiogènes. Donc eux, ils me tirent vers le bas.
Mais pour l'instant, pensez à vous. Pensez à vous pour l'instant. Les gens qui... que vous sentez négatif pour vous, qui ne vous font pas du bien, momentanément, il vous faut retrouver, vous voyez, il faut souvent se projeter un peu comme un équilibriste et se dire, mais qu'est-ce qui va me rendre un petit peu l'équilibre là? Qu'est-ce qui me fait pencher d'un côté ou de l'autre là? Qu'est-ce qui me fait pas du bien? Qu'est-ce qui est lourd là et qui me fait perdre l'équilibre? Alors je rectifie ça et je m'occupe de moi. J'ai le droit de m'occuper de moi. J'ai le droit, moi aussi, de vivre. J'ai le droit de me faire des cadeaux à moi, de penser à ma tronche, quoi, avant tout le reste.
Là, j'ai plus envie. Moi, je me faisais plein de petits cadeaux. Je surfais sur Internet, je m'achetais plein de trucs. Moi, j'ai plus envie, quoi.
Mais oui, mais pas ça. Ça, vous combliez vos angoisses. Parce que acheter des trucs sur Internet, je connais plein de gens qui le font. C'est parce que c'est l'angoisse, et puis là, c'est, on achète des petits trucs, et puis ça nous fait du bien sur le coup.
Un grand collectionneur, mais maintenant, voilà.
Vous collectionnez quoi?
Bah, j'ai une bonne partie. Bah, j'ai 1200 voitures, ce qui en ce qui concerne l'automobile après-guerre en Europe.
D'accord. Bah, vous collectionnez plus, ça vous intéresse plus?
Et bon, là, j'ai arrêté parce que j'ai la dose.
Oui. Mais ça vous intéresse plus maintenant?
Ça m'intéresse plus.
Alors bon, et ben vendez-la, votre collègue. Vous embêtez pas avec des trucs comme ça, vendez-la. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Quand on est en dépression, l'objectif numéro un, c'est d'en sortir. Il n'y a pas d'autre objectif. Parce qu'avec la dépression, c'est le noir, le vide partout. C'est la tristesse partout. Oui, il n'y a plus de couleur. Donc, il faut virer cette dépression et pour ça, il vous faut vous faire du bien. D'accord?
D'accord.
N'hésitez pas à me rappeler, en tout cas. D'accord?
D'accord. Okay.
Je vous souhaite bon courage et n'oubliez pas ce que je vous dis, c'est vraiment pas des paroles en l'air.
Oui, d'accord.
Forcez-vous à faire des choses pour vous.
Oui.
Et même si vous n'avez pas l'impression au début que c'est pour vous, vous verrez qu'au bout d'un moment, quand vous allez vous enchaîner 10 jours, 15 jours de marche au bord de la mer, au bord de l'océan, mais je vous certifie que vous allez ressentir les bienfaits de tout ça. Et ces bienfaits-là peuvent donner alors tout un tas de choses mystérieuses, mais très positives.
Oui. Il y a les arbres.
Ben, oui, mais il y a les éléments.
Oui, une fois que j'avais fait ça, donc ça m'avait, j'avais tellement d'énergie négative que j'avais fait ça une fois avec un grand chêne que j'ai été shooté. Ça peut paraître bizarre, mais hop, quand je me suis après retiré de l'arbre, je me suis senti très mal. C'est-à-dire que j'ai déversé à la terre tout le, le négatif. Hein, voilà. Comme quoi, bon.
Allez, marchez, allez vous faire du bien et n'hésitez pas à me rappeler. D'accord ?
D'accord.
Bonne soirée, David.
Je vous remercie beaucoup.
Au revoir,
merci.
Je vous en prie.
Au revoir. Au revoir.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Minuit 27 sur Europe 1 et nous accueillons Frédéric maintenant.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir, bonsoir Frédéric.
Bonsoir. Voilà, ben je vous appelle. Je me rends compte, selon les témoignages qui vous diffusent à l'antenne, pardon, qu'il y a beaucoup de personnes en souffrance.
Bien sûr.
Et c'est mon cas moi-même. C'est mon cas moi-même. Je suis en souffrance psychique. Et oui.
Oui.
Et donc, ben c'est dur à vivre. Comme vous le disiez avec votre précédent auditeur,
David,
qui, qui vous partageait un petit peu son expérience de vie. Et c'est vrai que c'est David, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident parce que je ne sais pas si ça remonte à, la, à ma naissance ou de la manière dont m'a élevé ma mère, puisqu'elle-même en souffrance psychique, elle était atteinte du syndrome de Munchausen.
Oui, d'accord.
Et donc, voilà, c'était un peu compliqué avec ma mère. J'étais un enfant maltraité. Pendant des années, des années, des années, jusqu'à l'âge de 12 ans.
Ensuite, le syndrome, pardonnez-moi de vous interrompre, mais le syndrome de Munchausen, c'est bien le syndrome où on rend malade son enfant pour,
c'est ça.
Pour paraître lui, le soigner, lui sauver la vie.
Voilà, lui apporter des soins et faire en sorte qu'il aille mieux, courir les hôpitaux, si je puis dire ainsi, pour pouvoir lui porter beaucoup d'attention.
Oui.
C'est comme ça que la personne maltraitante apporte beaucoup d'attention à son enfant. Et c'était le cas de ma maman. Et ce qui m'a fait tomber dans la souffrance psychique, c'est une grosse dépression doublée d'une schizophrénie.
D'accord.
Doublée d'une schizophrénie, car quand j'ai perdu mon père en 2012, elle commençait déjà, elle était sous-jacente, elle commençait déjà à se déclarer aux alentours de 2007, à la suite d'une hospitalisation où elle a été détectée, hein.
Vous avez eu des bouffées délirantes en 2007 ?
Oui, oui, j'entendais des voix et tout. Je ne me prenais pas pour Jeanne d'Arc encore. Hein, mais et donc, j'ironise, mais donc, c'est vrai que c'était assez compliqué.
Mm-hmm.
Et donc, comment dire, j'ai été soigné, hospitalisé, un mois d'hospitalisation en service de psychiatrie. Et ça m'a fait prendre conscience de ma maladie, ce qui m'a fait adhérer à mon traitement par la suite. Ce qui m'a fait adhérer à mon traitement par la suite et qui m'a permis en même temps de me sortir de là, de
d'être
me soigner,
stabilisé.
D'être stabilisé, tout à fait. Ouais.
D'accord. Donc, comment ça va aujourd'hui au niveau de justement des voix ou des choses que vous pouviez entendre
Des voix, j'en entends plus du tout.
D'accord, ça c'est déjà génial, non?
C'est déjà ça. Je n'entends plus de voix, je n'ai plus d'effet, ce qu'on appelle paranoïde, puisque ma schizophrénie était une schizophrénie aussi paranoïde. Hein.
Oui.
Je me sentais un peu observé, écouté.
C'est souvent le cas. C'est souvent le cas.
Voilà. Ouais, c'était le propre de ma maladie. Et ça a commencé, en fait, par une... Au départ, j'allais voir mon médecin, j'étais tout le temps fatigué. Et mon médecin me disait, mais vous avez une forte asthénie. Et l'asthénie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grosse fatigue qu'on a du mal à détecter et à comprendre. Et puis ensuite, on m'a détecté ma maladie psychique qui était la schizophrénie. Ouais.
Bon, donc, aujourd'hui, vous m'avez dit être en grande souffrance. Se passe-t-il dans votre vie aujourd'hui alors que vous
êtes... J'ai perdu tous mes repères quand mon père est décédé en 2012. Mon père était un homme courageux, travailleur, honnête. Il vouait sa vie à son travail. Hein. Il était entrepreneur, maçon, carreleur, poseur de mappes d'ameublement. Et il a monté sa maison de ses propres mains en 73, l'année où se sont mariés mes parents. Et ensuite, ce qui a fait qu'ils ont décidé de fonder une famille. Je suis né en 77, j'ai 45 ans. Et j'ai une sœur jumelle avec laquelle j'ai de bons rapports, si je puis dire, parce qu'on ne se fréquente pas beaucoup alors qu'on habite à une douzaine de kilomètres l'un de l'autre.
Et pourquoi ça ?
Eh bien, elle a décidé de faire sa vie, moi la mienne. J'ai quelques appels vidéo sur des réseaux sociaux et ensuite ça s'arrête là. Elle est très indépendante, ma sœur. Mmh. Voilà, j'en souffre énormément.
Vous le lui avez dit ?
Oui. Oui, elle me dit, mais tu sais, je suis comme ça, c'est pas de ma faute, c'est un peu ma façon d'être. Bah, j'ai dit, oui, mais moi, ça me fait souffrir, ça me fait souffrir. Hein. J'ai combien de Noël
tout
j'ai
seul.
Pu passer avec elle.
Vous êtes de l'Est, non, un petit peu dans...
Oui, j'habite
j'entends
à quelques kilomètres... un petit accent, non. J'habite à quelques kilomètres de Nancy, Épinal. Ouais.
D'accord. Vous avez des amis un petit peu là-bas, dans la région?
Oui, j'ai un peu d'amis. J'ai des amis commerçants, j'ai des amis avec qui tiennent un café, avec qui il fait bon aller boire un petit verre, pas d'alcool bien évidemment, ou alors avec modération, puis passer du bon temps, refaire le monde comme on dit chez nous. Hein.
Oui, mais déjà quand on n'a pas de boulot, bah, c'est déjà bien d'avoir des copains, de pouvoir refaire le monde.
Ouais.
C'est ce que je disais à David tout à l'heure, ça fait partie des... Pourquoi... Voilà. Pourquoi juger ça négativement? Au contraire, je trouve que c'est très bien ce que vous faites. Très bien. Vous cherchez du boulot ou vous avez un travail?
Non, je cherche du travail. Justement, je suis secrétaire comptable de métier. Voilà. Donc, je cherche à travailler pour une petite entreprise ou une association qui pourrait employer un secrétaire comptable. Et puis, j'essaie justement de percer dans le domaine de l'emploi pour pouvoir un peu m'occuper l'esprit déjà. Pas tellement financièrement, mais m'occuper l'esprit parce que les journées sont longues, vous savez, quand on
ne fait
pas grand-chose de ces journées, c'est un peu compliqué, c'est difficile. On ne sait pas trop de quoi demain sera fait, comme beaucoup de gens, c'est sûr. Hein, donc, on essaye d'avancer, de se fixer, des objectifs.
Oui, oui. Et alors, justement, pour ce poste de secrétaire comptable, vous avez quelques pistes?
Ah oui, je parcours les annonces sur Pôle emploi. Je fais les petites annonces classées dans le quotidien régional. Je prends aussi des contacts à droite à gauche parce que je connais des personnes assez influentes au niveau de la municipalité dans la ville dans laquelle je vis, donc qui me disent je vais essayer de te mettre en relation avec telle et telle personne et voir si ça peut matcher, si on peut trouver de quoi t'occuper.
Oui. Donc du coup ça vous avez quelques pistes, c'est quand même bien ça.
Oui, c'est-à-dire, comme me disait mon médecin, vous êtes une de mes plus grandes réussites parce que vous avez adhéré à votre traitement et vous avez pris conscience de votre maladie, vous avez, comme je disais, adhéré au traitement et vous avez pris en compte le fait que de tout faire pour vous en sortir, d'avancer, de progresser en permanence pour pouvoir aller de mieux en mieux. Ça, c'est important. C'est important. Je conseille d'ailleurs toutes les personnes qui sont en souffrance psychique de pas rester seules, de s'entourer de connaissances, de bonnes connaissances, de faire le tri autour d'eux, hein, bien évidemment, de voir sur les personnes avec lesquelles elles peuvent s'appuyer, et puis de s'entourer, parce que la parole, ça libère. Voyez, votre émission, elle devrait être remboursée par la Sécu, parce que ça fait du bien, ça fait un bien fou, c'est pour ça que beaucoup de gens vous appellent, et moi,
tant mieux.
Que je ressens ce soir.
Ouais. Tant mieux.
Il fait bon parler avec vous.
Ça fait du bien de parler, d'échanger, puis on peut se projeter un peu, et puis on voit que, voilà, on est capable d'échanger avec quelqu'un, et de passer un moment comme ça. Il y a toujours, de toute façon, hein, quand... Parce que vous m'avez l'air d'être quelqu'un d'ouvert, Frédéric. Donc il y a la vie. Hein, la vie, c'est d'abord ça. C'est d'abord échanger avec les autres, se confronter aux autres, soit en parlant, soit avec ses passions. Et en fait, quelles sont vos passions, justement?
Ah oui, j'allais vous le dire, la vidéo et la photo.
D'accord. Que vous pratiquez?
Non, moi j'ai pratiqué la vidéo dans une télévision interne dans la ville dans laquelle je réside. J'ai fait ça pendant 8 ans. J'animais une émission tous les samedis de 16h à 18h de reportages locaux pour informer les personnes hospitalisées, les résidents et résidentes des maisons de retraite qui attenaient à l'hôpital de l'actualité locale en images. Voilà.
D'accord. Et vous ne le faites plus?
Non, je ne le fais plus. Je ne le faisais plus, pardon, parce que quand je suis tombé malade, j'étais plus capable de faire, comme disait David, de faire grand chose. Je veux dire, de rester dans mon lit, de ne plus me lever, de plus. À un moment, je me suis mis, comment dirais-je, un coup de pied dans le derrière, si je puis dire, pour pouvoir avancer, me relever, dire, allez hop, T'as 45 ans, à l'époque j'en avais une trentaine d'années. Je dis, il faut avancer, c'est important, il faut essayer de s'élever et puis de passer à autre chose. Mais c'est dur quand on est pris, je dirais, dans une torpeur, et en même temps, dans un moment de désarroi, de pouvoir faire les choses. Voilà, faire les choses. Ouais,
c'est, vous avez du mal, vous sentez, à faire les choses
ouais,
de plus en plus.
C'est vrai, mmh. Ouais, tout à fait. Et
au niveau sentimental, en fait, il n'y a rien qui puisse se passer. Vous n'avez pas de...
Ah, j'aimerais rencontrer une petite femme charmante dans mes âges.
Et vous avez 45 ans, vous êtes jeune en plus.
Oui. Et puis pouvoir faire un petit bout de chemin ensemble, hein, ou même un long bout de chemin. Oui, pouvoir, pourquoi pas, fonder une famille, oui. Même si elle a des enfants, ça ne dérangera pas. Oui. Ouais. C'est important.
Et vous ne voyez personne dans votre entourage là qui pourrait vous intéresser?
J'ai des pistes, mais bon, ça se concrétise pas. C'est plutôt des relations très amicales surtout, très très amicales.
Donc,
je suis le bon copain qu'on sollicite pour. Passer un bon moment, se changer les idées, avoir un peu d'humour, ça fait partie de mes compétences. Et puis prendre du bon temps, se divertir, et puis passer un bon moment, comme je disais. Ouais. Mais au niveau des relations sentimentales, c'est un peu le calme plat.
Oui,
c'est un peu le calme plat. Ouais. Comme était ma vie d'avant, d'ailleurs. Comme était ma vie d'avant. Ouais, le calme plat.
Bon, mais il faut toujours garder l'espoir. Et je sens quand même que vous en avez quand même. Vous en avez quand même.
J'en ai quand même un peu sous le pied, oui, ça va.
Mais oui,
ouais.
C'est assez bien. Et comme je disais à David, n'oubliez pas que pour le moment, vous n'êtes pas en dépression, donc vous êtes en forme. Hein, faites-vous plaisir. N'oubliez pas de vous offrir tout ça parce que. Le temps passe, vous savez, et alors vous continuez à suivre les pistes hein, pour le boulot, les pistes pour peut-être vous faire accompagner par quelqu'un. Enfin, quand je dis
bien
accompagner
sûr.
Quelqu'un et vous faire accompagner, c'est-à-dire trouver une épaule, une dame qui... D'ailleurs, je lance hein, l'idée...
Un appel.
Vous m'avez dit que vous habitiez dans quelle... À Lunéville, hein, c'est ça?
À Lunéville, oui, en Meurthe-et-Moselle.
Voilà, c'est à 10 km de Nancy.
Non, une trentaine de kilomètres de Nancy et une trentaine de kilomètres de Nancy. Ouais.
Voilà. Alors vous qui habitez, mesdames, dans cette région, si vous avez envie de faire la connaissance de Frédéric, n'hésitez pas à nous appeler. On vous met en rapport. Ça n'engage rien. Hein. Au début, vous vous appellerez. Vous aurez chacun le numéro de téléphone de l'un et de l'autre. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, il y a tellement de gens qui sont seuls.
Oui.
Hein.
C'est vrai.
Et qui ne savent pas trop comment faire. Donc, la libre antenne, cela peut être un bon relais pour commencer quelque chose.
Ça rassemble les cœurs, je crois.
Bah, c'est fait pour.
Ouais.
C'est beau, des cœurs qui se rassemblent. Hein
ouais. Je voudrais faire un petit coucou à un ami qui est cher à mon cœur. C'est Jean-Jacques. Nicole, qui nous écoute actuellement et qui font beaucoup pour moi, qui sont des amis formidables, qui m'ont toujours soutenu. J'ai plein d'autres amis également qui se reconnaîtront et que je vois au quotidien et qui m'accompagnent sur ce chemin de vie pour pouvoir m'aider à m'élever et à avancer surtout. Ouais, c'est important.
Et ça, c'est une partie de votre trésor, mon cher Frédéric. Croyez-moi.
Ouais, c'est gentil.
Parce que c'est une chance d'avoir des amis.
Ah. Oui. Ah, mais des amis, de toute façon, j'ai toujours été tourné vers les autres et des amis, on en a très peu, des vrais amis, des bons amis, on en a très peu, on les compte sur les doigts d'une main. Il y a des fois, on n'a même que la moitié de la main pour les compter parce que des gens fidèles sur qui compter, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Donc, je voulais rendre un petit hommage à Jean-Jacques et Nicole qui se reconnaîtront. Et puis qui vous suivent tous les jours avec assiduité, et qui écoutent la antenne, ça leur passe le temps. Ouais, ils sont seuls eux aussi, et on se remonte le moral mutuellement. Ils ont eu un parcours de vie pas toujours évident. Mm-hmm. Ils ont traversé beaucoup de galères, mais c'est des gens formidables.
Vous avez raison lorsque vous disiez au début de votre intervention qu'il y a des tas de gens qui cherchent à avancer, hein, qui...
Ouais.
ont du mal parce que la vie est dure, parce que voilà, c'est souvent aussi au niveau du logement, au niveau de l'argent en fait.
Des finances.
Voilà.
Des finances.
Parce que l'argent fait beaucoup de choses en fait. Hein. En tout cas, il protège hein, quand on en a un peu. Il protège.
Ça rassure d'en avoir.
Bien sûr.
Quand on en a trop, ça peut poser problème. Quand on n'en a pas assez, ça pose énormément de problèmes, évidemment, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Hein. On a besoin d'argent. Il faut juste ce qu'il faut. Voilà. Il faut juste ce qu'il faut.
Exactement. Ben, en tout cas, écoutez, j'étais ravi d'échanger avec vous, Frédéric.
Moi aussi, j'étais ravi, Olivier.
Et puis
je recommande la Libre Antenne. Et je vous dis, ça doit être remboursé par la Sécurité sociale parce que ça fait beaucoup de bien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Frédéric. On vous embrasse bien fort.
Bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir,
merci.
Au revoir.
Au revoir, Olivier. Merci.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est minuit 42 sur Europe 1 et nous accueillons Gilles au 39-21. Bonsoir, Gilles.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Olivier. Bonsoir.
D'où nous appelez-vous, Gilles ?
Je vous appelle d'Avignon.
D'Avignon, d'accord. Et quel âge avez-vous ?
J'ai 62 ans.
D'accord. De quoi voulez-vous nous parler, Gilles ?
Alors, moi, j'aimerais revenir sur mon projet de voyage en Inde. Alors, vous dire, je suis non-voyant.
Oui.
Et donc, j'ai un projet d'aller en Inde. J'y suis déjà allé deux fois. Donc, je recherche un ou une partenaire de voyage pour mon voyage en Inde, Inde du Nord.
D'accord, Inde du Nord. Pourquoi l'Inde du Nord ?
Parce que je suis déjà allé deux fois en Inde, la première fois l'Inde du Sud, que j'ai beaucoup apprécié, la seconde fois Inde du Nord, et j'ai beaucoup enregistré particulièrement dans l'Inde du Nord, et j'ai adoré parce que je suis très sensible à l'Inde, j'aime cette culture, j'aime la cuisine indienne, j'aime les sonorités, j'aime les temples et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui va avec.
Vous m'avez dit, j'ai enregistré tout ce que j'ai entendu, c'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire que moi j'enregistre, je suis comme un photographe, mais sonore.
D'accord.
Et ce sont des cartes postales sonores et j'aime pouvoir enregistrer... photographier, si vous voulez, d'une certaine manière,
oui.
À ma manière, bien sûr, sonore, ce que je perçois, je suis à l'affût. Je me définis un peu comme un guetteur d'ambiance.
D'accord. Et en fait, ces sons que vous enregistrez, vous les stockez sur quoi ? Sur votre ordinateur ?
Oui. Alors d'abord, c'est une mémoire de mon appareil, mon boîtier numérique, et après, c'est sur mon ordinateur, oui. Effectivement.
D'accord.
Et après, je les utilise dans ma musique, puisque je suis pianiste.
Oui.
Et je les mélange avec ma musique. J'en fais quelque chose qui est musique et sonorité, des voix qui apparaissent, qui disparaissent, qui reviennent, transformées ou non.
D'accord. Et donc, vous êtes allé en Inde déjà accompagné la dernière fois ? Vous aviez quelqu'un avec vous ?
Oui, les deux fois où je suis allé déjà en Inde, j'étais accompagné. Oui.
Et en fait, qui, sans indiscrétion, qui vous a accompagné ? C'était encore par le procédé comme ce soir
Là, c'était la première fois, c'était une amie. La seconde fois, c'est devenu une amie, mais c'est une personne que j'ai rencontrée... à travers cette annonce que j'avais postée, je ne sais plus très bien où d'ailleurs.
Oui.
Mais, et puis là, je suis à la recherche d'un nouveau ou d'une nouvelle partenaire de voyage pour l'Inde du Nord.
Comment
se faire et puis ça ne s'est pas fait.
D'accord. Et comment ça s'organise, ça, dites-moi. Donnez des détails à celles et ceux qui nous écoutent pour que peut-être...
Alors, c'est une prise de contact déjà avec une personne qui pourrait être intéressée.
Oui.
Et après, il y a discussion, il y a échange, et si ça peut se faire, ça s'organise, quoi. Ça se fait, ça se programme, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, une rencontre ou deux rencontres pour savoir un peu à qui je peux avoir affaire, et la personne aussi en face, quoi.
Oui, il faut que ce soit quelqu'un qui soit passionné comme vous par l'Inde.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Parce que c'est aussi... L'Inde, c'est particulier. Hein. Moi, j'y suis allé quatre fois. Et c'est quand même c'est un sacré voyage.
C'est très particulier. Ouais. C'est une immersion dans un pays très différent.
Oui, c'est très chargé.
Mais moi, c'est vrai que ma passion, c'est malgré tout aller à la rencontre des lieux de dévotion, les temples, les lieux saints, les monastères, les ashrams.
Oui. Et alors, ouais. ces photographies sonores que vous ramenez, vous les réécoutez ensuite à des fins simplement musicales ou parfois
je les
vous
écoute
les passez
d'abord
pour vous ?
Ouais, je les écoute pour moi parce que ça me rappelle tellement de choses,
ouais.
Bien sûr.
Ouais.
Mais après, je les mets dans un appareil que j'ai chez moi, que j'utilise avec un partenaire de musique ou seul, mais quand même beaucoup avec un partenaire de musique, un trombettiste.
Ouais.
Et moi, je suis au piano ou au clavier.
Ouais.
Et puis j'ai cet appareil pour lancer les sons à certains moments, quoi.
D'accord.
Et on en fait une création.
D'accord. Donc vous m'avez dit que vous habitiez où ? Dans quelle région ?
Avignon.
Ah, Avignon. Oui, pardonnez-moi.
Provence.
Avignon-Provence. Donc est-ce que celui ou celle qui vous accompagnerait en Inde, qui déciderait d'aller voyager avec vous, doit habiter dans le même coin ou non ?
Pas nécessairement, mais c'est mieux si c'est en proximité, bien sûr.
Ouais.
C'est quand même plus simple pour se rencontrer.
Oui, complètement. Et pour partir ensemble,
oui.
C'est quand même mieux. Bon,
ouais,
bah écoutez, on passe l'annonce. Hein, vous qui nous écoutez ce soir, si vous avez envie d'aller déjà avec un connaisseur de l'Inde, puisque vous avez fait déjà deux voyages en Inde. Deux ou trois ?
Deux. Deux pour le moment.
Vous serez chacun complémentaire l'un de l'autre. Hein. Ça sera très agréable. En tout cas, moi, je vous recommande, hein, vous qui nous écoutez, si vous êtes tenté par l'Inde, c'est une opportunité formidable parce qu'y aller avec Gilles, qui connaît déjà, vous nous appelez et puis on vous mettra en contact avec Gilles. Voilà, Gilles.
Avec grand plaisir. Merci
à vous,
Olivier.
Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que ça
Merci.
Va se faire vite, ce projet. Au revoir.
Très volontiers.
Au revoir.
Merci. Au revoir. Bonne fin de soirée.
Vous aussi, au revoir. On accueille Michel au 3921, c'est bien ça. Bonsoir Michel.
Oui,
bonsoir. Bonsoir Michel, vous êtes là ?
Allô ?
Oui, vous m'entendez ?
Oui.
Ah,
oui,
très
oui,
bien.
C'est bon là.
Bonsoir Michel. De quoi voulez-vous nous parler, Michel ?
En fait, je ne sais plus à qui m'adresser parce que ça fait un certain temps déjà, je recherche... des contacts, des témoignages, des moyens de pouvoir aider ma fille.
Oui.
Qui, moi, je ne suis pas médecin ni psychologue, mais vu tous les déboires que j'ai eu avec elle et puis les messages que j'ai régulièrement,
oui.
Je pense qu'elle doit être quelque part schizophrène ou je ne sais pas exactement.
Schizophrène.
Ma fille, elle a 34 ans.
Oui.
Et en fait, merci déjà de m'avoir appelé.
Je vous en prie,
Michel. De vouloir m'écouter.
Je vous en prie.
Et c'est vrai que médecin de famille me dit, il n'y a rien à faire, elle a 34 ans. Si elle ne veut pas se faire aider par un médecin, nous, on ne peut rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Elle s'est trouvée une mère célibataire et en fait à ce moment-là effectivement c'est une grande charge parce qu'elle était seule avec les deux enfants,
oui.
Mais le papa il avait une garde alternée et moi j'étais assez loin pour l'assister régulièrement. Par la suite, il y a eu d'autres événements qui ont fait que je me suis rendu compte un petit peu de la situation et elle a fini par perdre donc la garde de ses deux enfants et en fait, on est en constant conflit. Un conflit qui s'est dégradé sur un mesure avec le temps et pourtant ce n'est pas, je ne pense pas, manque de mon investissement pour l'aider, pour la soutenir.
Oui.
Et en fait, là, ça s'est dégradé de telle sorte que on reçoit des insultes, elle insulte sa sœur.
Mais dans quel type de circonstances, Michel? Parce que, en fait, on n'a plus beaucoup de temps et on reprendra cette discussion dès lundi, hein, au début de l'émission. Parce que je ne vais pas vous laisser comme ça en 4 minutes. Bon, mais on va bien évidemment parler pour que vous m'expliquiez dans quel type de situation elle vous insulte. Vous comprenez? Par exemple,
oui,
donnez-moi
oui.
des exemples.
Écoutez, les exemples sont tellement... tellement grave, tellement gros, que j'aimerais préciser qu'il y a des amis, allez, même des enfants de mes amis, moi j'ai 55 ans, je connais les enfants de mes amis, qui connaissent ma fille également,
oui.
Et il y a des propos, des paroles sur des réseaux sociaux, que ces personnes-là, ils ont lu et qui leur a décroché une réaction d'étonnement et de négativité vis-à-vis de ma fille, quoi.
Oui, mais
c'est allé très très loin, quoi.
Mais quel type de parole, en fait? Elle insulte des gens? Elle tient des propos incohérents?
Écoutez, sans utiliser le mot exact, moi je suis la fiancée de Satan, sans utiliser le mot PUTAIN,
ouais, d'accord, okay.
etc. Mais c'est vraiment, en fait, ça fait déjà quand même quelques années que ça dure. Hein.
Mais est-ce que, alors je vais vous poser plusieurs questions, est-ce que elle était comme ça avant? Est-ce qu'elle avait tendance, par exemple, parce que schizophrène, vous savez, elle n'est pas schizophrène votre fille, schizophrène, les personnes malades de schizophrénie sont des personnes qui, vous l'avez entendu tout à l'heure,
oui.
entendent des voix, peuvent avoir vraiment une paranoïa aiguë, se sentent observées, épiées.
C'est ça le problème. Elle est très paranoïaque.
D'accord.
Parce qu'elle m'accuse d'accueillir son ex chez moi pour faire les travaux. Et c'est pas la première fois. Donc, en fait, son ex-petit copain et, entre autres, le papa de ses enfants, elle m'accuse de les avoir séduits. Et vouloir les séduire,
envoûté,
etc. Quoi.
Envoûté ou pas? Est-ce qu'elle vous parle d'envoûtement?
Oui.
Est-ce que vous parlez d'envoûtement?
Ah bah oui, ah bah oui. Ah bah, moi je parlerais plutôt de possession, quoi.
De possession, d'accord.
Ah bah non, mais oui.
Elle
parce
est branchée
que, bon,
esprit et tout ça. Enfin, vous sentez qu'elle croit à tout ça, quoi.
Peut-être. Ça, je ne sais pas exactement parce qu'on n'a jamais entamé ce sujet-là. Mais moi, je suis. C'est vrai qu'elle utilise les mots de Satan et tout ça. Bon, on n'a jamais eu cette habitude.
Vous
de
savez quoi,
de ces sujets-là.
Michel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous rappeler lundi. On va continuer cette discussion. D'ici là, ce week-end, essayez de me noter des petits exemples. Dans quelle situation elle vous a dit ci, vous a dit ça? Ce qui a pu déclencher son attitude, mais on continue. Florian va vous rappeler lundi à 23h, d'accord? Ah oui, c'est ça, 23h.
23h.
D'accord, ça vous va?
D'accord.
Ok.
Lundi 23, ok.
Ok, à lundi,
ouais.
À lundi, Michel.
D'accord.
On va trouver une solution, vous inquiétez pas. Au revoir, Michel.
Super, merci, au revoir.
Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Demain, à partir de 23h, et ce, durant tout le week-end, vous serez avec Yann Moix. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end en avance. Prenez soin de vous, respirez, faites-vous des cadeaux, comme je l'ai dit à David tout à l'heure. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. À lundi. Salut.